qu'on allait voir ce soir. Et Eudes, on continue la suite des juges. J'avais la prédication aussi de ce matin en tête. Et en pensant aux juges, en faisant la suite, je méditais sur le juge Eudes qu'on va voir ce soir. Et dont je vous avais parlé l'autre fois que je trouvais intéressant de voir comment est-ce que dans les juges, il y a des détails qui sont donnés. Et est-ce qu'on doit prendre ces détails-là au premier degré ou est-ce que c'est une information historique tout simplement? Et je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui nous sont données. Et puis en même temps, il y a des choses dans l'histoire des juges qui sont directement applicables, je pense, dans nos vies et qui sont très motivantes, je trouve. Ce que l'on va voir ce soir avec le juge, en fait, le libérateur, qu'on pourrait peut-être dire dans le cas de Eudes, pour appliquer à nos vies. Et puis, quand je pensais justement à ce soir, à ce matin, je réalisais comment est-ce que Dieu intervient dans nos vies, continuellement, de toutes sortes de façons. Comment est-ce qu'avec le peuple d'Israël, Dieu est continuellement intervenu. Il les a pas laissés y aller, il les a pas abandonnés dans un sens où il a complètement rompu son alliance, puis il les a laissés partir parce qu'il était tanné de leur désobéissance. Mais même à cause de leur péché, Dieu est intervenu. Dieu est intervenu dans leur délivrance, Dieu est intervenu dans la victoire, dans la paix qu'il leur a donnée. Et en lisant les juges, je trouve qu'on découvre un Dieu bon, un Dieu qui est patient, un Dieu miséricordieux. Et c'est ce que je vais aller voir ce soir. Comment est-ce que Dieu est intervenu dans la vie du peuple, mais aussi comment est-ce que Dieu est intervenu par Eudes? Et comment est-ce que ça s'applique à ma vie? Et si on emploie l'exemple de Eudes, c'est un leader pour son peuple. C'est un homme qui a conduit son peuple à la victoire, évidemment, par la force de Dieu, par le bras de Dieu. Et mais c'est passé quelques années quand même où ce que le peuple a été, en fait, 18 ans, où ce que le peuple a été asservi à cause de leur péché. J'ai quelques questions pour vous. C'est intéressant parce que en même temps, la semaine passée, René nous entretenait sur le maître qui est un serviteur. Jésus nous a donné un exemple de serviteur, mais il demeurait le maître. Et en même temps, nous, ses disciples, il nous exhorte à être des serviteurs les uns les autres. Puis en même temps, je pense qu'on a un rôle ou une responsabilité de leader dans un sens large. On va définir ça au fur et à mesure. Je veux vous demander, pour vous, c'est quoi un leader? C'est quoi une personne qui use de leadership, disons dans un sens spirituel? C'est quoi un leader? Qui donne une direction, quelqu'un qu'on veut suivre. Quoi d'autre aussi? Oui, Claude. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, OK, c'est très bon. Merci, Claude. Oui, Joanie. OK, qui sont des modèles dans tout ce qu'ils font, Étienne? Quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va? Oui, René? Oui. Il influence, il mobilise. Oui, les autres, évidemment. Il peut s'influencer lui-même aussi à travers les Écritures, là. Laissez-moi vous lire un passage que vous connaissez très bien. Matthieu 5, 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Jésus nous dit, on est la lumière du monde. Vous êtes la lumière dans la montagne. On ne veut pas vous cacher. On ne peut pas vous cacher. Et puis la lumière, on connaît ce que c'est la lumière. Si une lumière, ben on est intéressé de se rendre à la lumière pour voir c'est quoi qu'il y a. Et puis c'est attirant, c'est intéressant. Et si je suis la lumière, et si Dieu veut m'utiliser comme lumière, mais il veut que je sois présent, il veut que je sois lumineux, si je peux dire, dans le monde. Je continue verset 15. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est qui la lumière? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais moi, qu'est-ce que je viens faire avec la lumière? qu'est-ce que j'ai en rapport avec la lumière? Comment? Ouais. OK. J'ai entendu d'autres commentaires aussi. On la reflète. Si je marche dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, si je marche dans la lumière, puis je suis un type qui est engagé avec Dieu, mais la lumière va se refléter aussi de moi, de ma vie. Et je pense que ça a un sens. Tantôt, on disait des leaders silencieux, d'être des modèles, d'être des serviteurs aussi pour les gens, pour notre prochain. Je pense que Dieu veut nous utiliser comme des leaders, dans un sens où ce qu'on est des lumières, puis on va influencer le monde dans lequel on est. De la même façon que Ehud était parmi une génération qui avait oublié Dieu, avait délaissé Dieu, et cette génération-là avait peut-être perdu la perspective de où il devait s'en aller avec Dieu. Et il est arrivé dans un temps où ce que lui a été une lumière pour son peuple. Et de ce sens-là, on va voir l'exemple de Ehud. Comment est-ce que pour nous, ça nous exhorte à être des leaders. Comment ça nous exhorte aussi à être des serviteurs? Parce que le plus grand service que Ehud a pu rendre à son peuple, c'est de le conduire à l'Éternel. C'est de le ramener à Dieu, puis de le ramener à dire « Confiez-vous en l'Éternel ». C'est le plus grand service que le libérateur a pu faire. Et évidemment, les deux sont compatibles. C'est l'enseignement de Jésus. Si je suis un serviteur, le plus grand, on disait, je ne répéterai pas tout ce qui a été dit, mais ce que Jésus disait, c'est que le plus grand, c'est celui qui sert. C'est celui qui sert. Et Dieu veut m'utiliser comme leader, on va le prendre dans ce sens-là, où ce que Dieu veut m'utiliser comme serviteur, mais en étant serviteur, je vais avoir une influence aussi sur les gens qui sont autour de moi, parce que la lumière va ressortir aussi de moi, de ma vie, comme ce que Dieu veut m'utiliser. Avant qu'on aille, je vous invite à tourner dans Juges 3. Pendant que vous tournez dans Juges 3, le prince Charles a fait une entrevue, c'est intéressant, c'était en octobre passé. Le prince Charles avec la princesse, prince du Pays de Galles, ont accepté que des journalistes viennent les filmer dans leur maison en tant que couple normal avec les deux enfants. Et pendant l'entrevue, le prince Charles a décrit son rôle de leader au sein de la famille en ces termes. On lui a posé cette question-là. La question, comment tu vois ton rôle? Et il a répondu, c'est plus que n'importe quoi. C'est un mode de vie. C'est plus qu'un travail, c'est une occupation à temps plein. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que le prince Charles avait cette perspective-là de son influence déjà au sein de sa famille, au sein de ses proches, qui est une très bonne compréhension, je pense, de ce que c'est un leader, du moins au sein de sa famille. Et même, John Maxwell complète en disant, le leadership dans une église et ou toute autre activité chrétienne n'est jamais juste une job. C'est toujours un mode de vie qui demande un engagement complet, 24 heures par jour. On parlait tantôt de leader, de modèle. Le leader est toujours à l'œuvre, prenant des bonnes décisions, en rejetant ce qui est mal, en prenant ce qui est bien, en accomplissant bien ce qui lui est demandé, tout en encourageant, comme on disait tantôt, les gens avec lesquels il sert. Un leader est quelqu'un qui connaît la voie, marche dans la voie et montre la voie. Et je trouve que c'est très bien résumé de ce qu'on va voir de l'exemple de Ehud tantôt, à travers un verset où ce qu'on voit exactement ce leader-là qui connaissait la voie, qui a marché dans la voie, puis qui l'a montré la voie aussi, ce qui a encouragé les gens à venir avec lui. On va faire un mot de prière et après ça, on va lire dans Juges 3 à partir du verset 12. Seigneur, on vient devant toi parce qu'on veut t'adorer premièrement. On veut te donner nos pensées, on veut te donner toute notre attention pour que tu puisses nous parler, Seigneur. Parler à nos cœurs à travers ta parole. Cette période de juge, Seigneur, a été, j'imagine, une période de relation difficile entre toi et ton peuple. Et on veut prendre cet exemple-là, Seigneur, de ce peuple pour éviter les mêmes erreurs, en même temps mettre en pratique ta parole. Se servir de tout ce que tu nous laisses, Seigneur, pour qu'on puisse être des enfants obéissants, des enfants qui porte la lumière dans le monde dans lequel on est, comme Ehud. Et je te prie que tu puisses parler à nos cœurs. En ton fils qu'on te prie. Amen. On va lire en quatre sections l'histoire de Ehud. Premièrement, comme je disais tantôt, je veux qu'on voit à travers ça l'intervention de Dieu. À travers l'intervention de Dieu, on va voir comment est-ce que Ehud, lui, a été un leader pour son peuple. Mais regardons premièrement l'intervention de Dieu dans le péché de son peuple. On va lire les versets 12, 13 et 14. Un volontaire qui veut lire Juges 3, 12 à 14. OK, Richard. OK. Première phrase. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Dans les juges, on va retrouver une certaine redondance qu'on va chercher à comprendre et accepter cette redondance-là, si je peux dire, du fait que c'est les Écritures qui le présentent comme ça. Et j'imagine que si Dieu insiste à montrer cette redondance-là, c'est qu'il y a un exemple pour nous à comprendre et à faire attention. Le peuple de Dieu fait encore ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce qui déplaisait à l'Éternel? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a déplu à l'Éternel? On le voit dans le verset 7 précédent. Qu'est-ce qui déplaît particulièrement à l'Éternel? Ou ce qui les a amenés à utiliser l'ennemi pour l'amener, pour le presser? Qu'est-ce qui a déplu à Dieu? Adorer d'autres dieux? Excuse, Yvan, tu veux répéter? Ouais. Ils ont oublié l'Éternel. Ils ont délaissé ce que Dieu avait fait, ce que Dieu avait comme implication dans leur vie. Ils l'ont oublié, se sont détournés de lui pour se tourner vers d'autres idoles et finalement servir d'autres idoles. Et puis pour se donner leur consécration qu'ils avaient à Dieu, s'est détourné vers des idoles et les amener loin de lui. C'est ce qui a déplu, j'imagine, à l'Éternel, cette idolâtrie-là qui fait que Dieu est intervenu dans leur péché. Dieu envoie, ça dit fin du verset 12, « L'Éternel fortifia Édlon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. » Dieu est allé chercher le roi de Moab, et il l'a fortifié, il lui a donné, il l'a rendu plus puissant que son peuple. Et Édlon, verset 13, réunit à lui les fils d'Ammon, les Ammonites et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël et s'empara de la ville des palmiers. Et de là, les Ammonites sont allés chercher deux autres nations, les Ammonites, les Moabites et les Ammonites. Et puis, c'était tous des peuples qui étaient au sud, comme par exemple Moab était vraiment à l'est, au sud-est, l'autre côté du Jourdain. Les Ammonites étaient un petit peu au sud, je peux dire, des Moabites. Et puis encore plus au sud, il y avait les Amalécites. Et ces peuples-là s'approchent, se rallient sous l'influence du roi Édlon et s'approchent finalement pour prendre la ville des palmiers. C'est quoi la ville des palmiers? Jéricho! Oui, c'est ça. La ville des palmiers. Ils s'approchent pour prendre la ville de Jéricho. Et finalement, le peuple de Dieu voit ses ennemis qui sont autour de lui devenir plus forts, se fortifier. Le roi Édlon qui s'approche, les envahit, puis ils gagnent. Comment est-ce qu'on aurait réagi si on avait été de ce temps-là? Comment est-ce que le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils avaient à comprendre ou qu'est-ce qu'ils ont pu comprendre à ce moment-là? De voir les ennemis comme ça qui s'en viennent, puis qui perdent la bataille. Ouais. Ouais. On imagine que leur culpabilité aurait fait surface. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre? Rapidement. Oui, vas-y encore, Danny. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui, le peuple aurait dû comprendre que, comme tu disais, Danny, les idoles n'ont pas donné la victoire. Les idoles qu'eux-mêmes se sont mis à servir ne leur ont pas servi au jour de la détresse. Et pourtant, c'est qui a fortifié les ennemis? C'est pas leurs idoles, c'est l'Éternel qui avait fortifié les ennemis. Et le peuple aurait dû, j'imagine, rapidement comprendre qu'ils avaient abandonné Dieu et qu'ils devaient revenir à Dieu. Mais il s'est passé un certain temps. Regardez le verset 14. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Il s'est passé 18 ans d'asservissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils ont péché puis ils ont servi d'autres dieux. Ils sont restés 18 ans dans l'esclavage à cause de ça. On se trouve maintenant au sud. On a le roi Eglon de Moab qui est arrivé à la ville des Palmiers, à Jéricho. Et les autres peuples se rallient à lui pour venir attaquer le peuple de Dieu. C'est intéressant de voir que c'est pas passé des centaines et des centaines d'années entre la grande victoire de Jéricho et ces peuples-là qui reviennent maintenant à Jéricho. Et de voir que j'imagine que pour le peuple qui est tout jeune encore en terre promise, voit comment les peuples ennemis arrivent et prennent possession qui pourtant avait été une grande victoire dans le passé et maintenant se trouve à être une défaite à cause de leur désobéissance. La ville est assujettie maintenant est donnée aux ennemis en attendant du moins qu'ils vont revenir à l'Éternel. On va continuer. Regardez le verset 15. Je vais lire le verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. Éhud, fils de Guéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Non. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu est revenu avec 18 ans, après 18 ans d'asservissement, où ce que le peuple est revenu, ou du moins, il criait à Dieu. Et comment est-ce que Dieu est intervenu lorsque le peuple a crié? Il a suscité un libérateur. C'est même le cycle qui revient où ce que, avec la désobéissance, il tombe dans le péché, il tombe dans l'asservissement pendant un certain temps, et il crie à Dieu. Puis à chaque fois qu'il crie à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu répond. Dieu intervient. C'est une vérité qu'on doit se rappeler pour nos vies aussi. Que même à cause de leur propre péché, le peuple de Dieu dans leur propre péché, quand ils ont crié à Dieu, Dieu est intervenu. Dieu a envoyé un libérateur. Et ce Dieu de miséricorde-là, qui aimait son peuple, qui est infiniment patient, infiniment miséricordieux, qui est fidèle, ben, a donné un libérateur à son peuple pour le ramener. Et le peuple a dû se rendre jusqu'au moment où il était obligé de crier à l'Éternel. On imagine la compréhension que l'on a du peuple qui crie à Dieu, c'est parce qu'ils sont dépourvus, là, il n'y a plus rien. Un peu de la même façon que quand notre Seigneur va revenir, quand Jésus va revenir, les Juifs ils vont se tourner vers le Messie, puis ils vont crier à lui pour qu'il revienne, et puis il va revenir. Le libérateur, le seul, le vrai libérateur va revenir. Éhud était un gaucher, mais il n'était peut-être pas gauche, exactement. Laissez-moi vous citer Juges 20:16. Parmi tout le peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Incroyable, hein? Alors, les gauchers sont peut-être pas si pires que ça. Du moins, ce qu'on voit dans les Juges, c'est pas nécessairement un terme péjoratif. Je pense que du fait que Éhud était un gaucher, c'est pas nécessairement péjoratif ou ce qu'il a employé le plus faible du peuple. Je pense pas que les gauchers sont plus faibles que les droitiers, mais c'est un détail que je pense que les Écritures nous révèlent comme ça, ou ce qu'il y a plusieurs détails qui nous sont révélés de la personne. Et je pense que d'avoir été gaucher, c'est peut-être comme au baseball, les gauchers, les lanceurs gauchers sont avantagés. Peut-être que pour lui, la feinte a été plus facile pour ce qui s'en vient. Mais il s'est préparé, Dieu a envoyé un libérateur, et puis cet homme-là, c'est Éhud. Quand le peuple crie à Dieu, Dieu lui répond, puis lui suscite un libérateur. J'aimerais avoir un volontaire qui voudrait lire la suite des événements, s'il vous plaît, versets 16 à 25. OK, Mylène. OK, c'est bon. Éude a un plan. Et on imagine, à travers quelques éléments, que ce plan-là ne s'est pas nécessairement fait tout seul. On va comprendre que on imagine que Éude, avant de partir, il a dû convoquer le peuple de Dieu. Il a dû parler avec le peuple de Dieu. Regardez la fin du verset 15. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui, par Éhud, un présent à Eglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël ont préparé un présent et par Éhud, ils l'ont envoyé. On imagine que le plan était probablement déjà connu et il s'en va. Probablement que le présent. J'imagine que c'était peut-être je sais pas moi, un banquet, un buffet, je sais pas, quelque chose que le roi allait peut-être manger, peut-être qu'il y avait du vin là-dedans et que le roi a perdu un peu son sens du raisonnement. Et il l'envoie et puis il envoie son présent. Et puis au verset 16, Éhud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la saignait sous ses vêtements au côté droit. Alors, au verset 17, il arrive avec son présent, il offre le présent à Édlon, roi de Moab. Or, Édlon était un homme très gras. Comment est-ce que Éhud avait préparé? C'est quoi la. Quel était l'ordre des événements dans la stratégie d'Éhud? Quel était l'ordre des événements dans sa stratégie? C'est une hypothèse. Je faisais l'hypothèse que c'était probablement un don de quelque chose à manger. Mais c'est ça. Mais c'était peut-être ça. C'était peut-être. Il connaissait peut-être ce qu'il appréciait. Mais certainement qu'un présent, c'était quelque chose qu'il savait que le roi allait apprécier. Il a employé certainement cette chose-là. Quoi d'autre aussi? C'est quoi l'ordre des événements dans la stratégie d'Éude? Oui, Paul. Ouais. Il l'a mis en confiance. Et en le mettant en confiance, jusqu'où qu'il a pu se rendre? Oui, dans sa chambre. Il a envoyé ses propres gens. Éhud renvoie ses propres gens qui avaient amené le présent. On imagine que c'est un présent qui nécessitait plus que deux mains. Il renvoie les gens qui amenaient le présent. Et là, verset 18, lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Il avait mis en confiance et maintenant le roi était prêt à accueillir ce secret-là, au point tel qu'il est prêt à faire sortir tout le monde qui était sous j'imagine, pour la garde du roi, et puis le fait sortir. Et là, le roi est seul avec Éhud. Et puis, Éhud prend son épée du côté droit et puis poignarde le roi. Le roi, il meurt. Il reste là dans sa chambre. Et Éhud, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il ferme la porte, attelé, puis il se sauve. Et là, à un point tel que les gens qui étaient peut-être sous la garde d'Éhud, ils se disaient, ben, il est en train de faire, il est peut-être à la toilette, là, on va laisser le temps qu'il a de besoin jusqu'à temps que ça soit plus honteux. Mais à un moment donné, quand c'était trop long, ben là, ils ont rentré, puis ils ont découvert le roi Édlon qui était mort. Le premier coup offensif, l'expression couvrir les pieds, c'est la même chose que couvrir les pieds pour Saül, là. Les gardes attendaient qu'il avait fini de se couvrir les pieds. Et puis, ce premier coup offensif s'est fait sur le roi. Et la suite allait en découler maintenant aussi. Regardez le verset 19. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Et il dit, ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Gilgal, qu'est-ce qu'il y avait de spécial à Gilgal? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de spécial à Gilgal que Éhud se disait, ça, c'est un endroit spécial? Et qui devait peut-être probablement chérir dans son cœur aussi. C'est peut-être loin dans vos souvenirs. Ça l'était dans les miens aussi. Qu'est-ce qu'il y avait à Gilgal? Non. Regardez, je vous invite à tourner dans Josué. Gardez un doigt dans où est-ce que vous êtes. Puis reculez dans Josué, le chapitre 4. À partir du verset 19 à 24. Quelqu'un qui voudrait lire ça? Josué 4, 19 à 24. Claude. OK. Est-ce que Ehud a vu ces 12 pierres-là? Je ne le sais pas. Mais il y avait un monument très particulier pour le peuple de Dieu, qui étaient les 12 pierres qu'ils avaient prises dans le fond du Jourdain, qu'ils ont fait un monument. Et Josué a dit, vous allez dire à vos enfants quand ils vont vous demander, c'est quoi ces roches-là, c'est quoi ces pierres-là, ce monument-là? Et vous allez leur rappeler l'histoire qui s'est passée. Vous allez leur rappeler que le peuple, qu'on a passé à sec le Jourdain, qu'on a mis les pieds à sec de l'autre côté dans la terre promise, et que, verset 24, « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Imaginez maintenant Ehud qui se trouve à Gilgal pour aller parler au roi, et que ces événements-là, qu'on se souvient du passé, où ce que Josué disait, ces pierres-là sont pour nous rappeler la main puissante de Dieu, que tous les peuples sachent, que tous les peuples sachent qu'on appartient à l'Éternel. Et maintenant, le peuple de Dieu vit dans la servitude parce qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Les peuples étrangers sont venus asservir le peuple de Dieu parce qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et j'imagine que pour un homme comme Ehud, si Dieu l'avait choisi, c'était parce que certainement qu'il chérissait son Dieu dans son cœur et qu'il voulait lui obéir. Et je suis convaincu probablement qu'il connaissait ces choses-là. Il connaissait ces choses-là que Josué avait placées là, il n'y a pas si longtemps. On a vu les événements, comment est-ce que l'ordre des événements dans la stratégie de Ehud, et le premier coup fatal a été porté au roi. Et fort probablement organisé par le peuple qui eux-mêmes envoyaient des gens. On va continuer de finir, pour terminer ce passage-là, les versets 26 à 31 de Juges 3. 26 à 31. Quelqu'un qui voudrait lire? En fait, 26 à 30. OK, j'ai 5. Pendant 80 ans. La dernière section, on voyait que Ehud avait fermé la porte, l'avait barrée, puis s'était sauvé. Puis il a eu le temps de courir, il s'est rendu jusqu'à Sierra. Et puis, dès qu'il fut arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Il sonne la trompette. Comment Ehud a été un leader pour son peuple? Comment Dieu a utilisé Ehud comme un libérateur pour son peuple? Quelle chose que l'on voit dans son caractère, dans ses actions, qui a mené Ehud à conduire le peuple? C'est plusieurs questions, mais c'est toute la même. Oui, Paul. Ouais. Ouais. C'est ça. Alors, c'est intéressant de voir comment est-ce que lui-même, comme tu dis, il a été un modèle, il a agi parce qu'il avait confiance en Dieu. Il est allé au-devant et il a montré certainement la confiance lui-même qu'il avait en Dieu. Comment est-ce qu'il est allé porter le premier coup et comment est-ce que les autres coups allaient suivre aussi. Il a été un modèle dans sa foi en Dieu. Comment est-ce que Ehud a été un leader pour son peuple? Il se rend jusqu'à Sierra, dans les plaines montagneuses, pas les plaines, mais les contrées montagneuses d'Éphraïm, et puis il sonne la trompette. 2 Corinthiens, Paul, il parle des trompettes. Comment, laissez-moi juste trouver... Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Comment pensez-vous qu'Ehud a sonné dans la trompette? Je pense qu'il a dû s'époumoner dans la trompette pour dire « c'est le temps, on y va ». Et puis, cette trompette-là était un son de guerre qui allait commencer, qui s'en venait. C'est peut-être un exemple banal, mais c'est un exemple qu'on va voir revenir plus tard aussi avec Gédéon, qui sonne la trompette, et cette trompette-là qui est le signe, justement, de l'offensive qui commence. De cette confiance-là que l'on on sait que Dieu est au-devant de nous et qu'on peut y aller. Quoi d'autre aussi? Fin du verset 27. Il se mit à leur tête. Je vais vous conduire. On va y aller ensemble. Je vais vous conduire. Puis qu'est-ce qu'il dit au peuple? Il se mit à leur tête. Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Ouais. Suivez-moi. Suivez-moi. Puis quelle motivation est-ce qu'il leur a donné de dire suivez-moi? Pourquoi suivez-moi? C'est gagné d'avance. Est-ce qu'il dit suivez-moi parce que je suis un guerrier incroyable? Je viens de tuer le roi et puis je vais vous régler ça. L'Éternel. L'Éternel. Suivez-moi parce que l'Éternel, regardez le verset 28, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Et Ehud était convaincu que Dieu allait livrer ses ennemis entre leurs mains. Et Ehud a été un homme qui voulait la libération de son peuple. Il était probablement tanné de voir son peuple dans l'esclavage, qui était asservi à toutes sortes de choses. Puis il dit, c'est le temps maintenant de goûter la liberté, de vivre la liberté, de revenir à l'Éternel. Et puis, il dit maintenant, il se met à leur tête, puis il dit, suivez-moi, parce que Dieu va vous donner la liberté. Dieu a manifestement entendu leur cri, puisque Ehud est ce libérateur-là qui vient. Et Ehud est en même temps un espoir, un encouragement pour le peuple qui les suit derrière pour aller se battre. Et le peuple s'en va. Ils sont à Gilgal, juste un peu au-dessus de Jéricho. Il y a le Jourdain qui passe tout proche. Et Moab, vous vous souvenez, il est juste l'autre côté du Jourdain. Alors, je ne sais pas sur quel bord vous imaginez ça. Moi, dans ma tête, c'est par là, là. Et puis, juste l'autre côté du Jourdain, c'est les Moabites. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont jusqu'au gué du Jourdain et puis ils laissent passer personne. Comment est-ce qu'ils étaient, les Moabites? Frêles? Ils étaient 10 000, ils en ont vaincu 10 000. Robustes et vaillants. C'était des vrais guerriers, c'était des hommes de guerre. Et le peuple de Dieu, c'est 18 ans que tu es dans l'esclavage à ce peuple-là, se sont pointés au Jourdain. Tantôt, je t'ai pointé là. Ils se sont pointés au Jourdain et puis ils ont laissé passer personne. Pourquoi? Parce que maintenant, ils étaient vaillants eux aussi. Parce que l'Éternel avait livré ses ennemis entre leurs mains. Parce qu'ils étaient revenus à l'obéissance. Ils étaient revenus à l'Éternel. Et maintenant, j'imagine qu'ils avaient compris une leçon qu'avec Dieu, quand on s'abandonne à lui, on goûte la victoire, on goûte la liberté aussi. Et c'est ce que Ehud a conduit son peuple à goûter, à voir ce qu'ils ont vu. Verset 27. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. Puis en ce jour-là, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Dieu a utilisé son peuple, même dans sa propre libération. C'est intéressant de voir comment est-ce que le peuple crie à Dieu. Dieu envoie un libérateur pour les conduire. Dieu livre les ennemis entre leurs mains, mais en même temps, Dieu utilise son peuple pour se battre. Parce que j'imagine qu'il veut solliciter leur foi. Ils sont robustes, ils sont vaillants, mais maintenant, en se confiant en Dieu, on le sait qu'on va avoir la victoire. Et Dieu les utilise aussi et pour participer justement à cette victoire-là qu'il veut leur donner. Et le salut s'obtient par le moyen de la foi. La libération s'obtient par le moyen de la foi et c'est ce qu'ils ont goûté aussi. Le peuple a été en repos pendant 80 ans grâce à qui? À Ehud, mais parce que Dieu est intervenu. Dieu est intervenu dans leur péché. Dieu est intervenu dans le libérateur. Dieu est intervenu dans la libération, dans la victoire, dans la paix. Dieu a tout donné cela parce que son peuple est revenu à la foi. Dieu veut nous utiliser comme des leaders pour lui, comme des lumières du monde. Pourquoi est-ce que Ehud, selon vous, a été choisi par Dieu? Parce qu'il était gaucher, il pouvait feinter le roi. il y avait sûrement d'autres gauchers. Pourquoi est-ce qu'Éhud a été choisi? Pourquoi est-ce que Dieu choisit? Quel type de libérateur Dieu va choisir? Un leader? Puis qu'est-ce qui caractérise cet homme-là face à Dieu? Comment? Son cœur face à Dieu, il craint l'Éternel. On imagine que si Dieu a choisi Éhud, c'était parce que c'était déjà un homme qui l'aimait. C'était un homme qui était près de lui. On imagine qu'il était déjà amoureux de Dieu, si je peux dire. Dieu veut qu'on soit des leaders, nous autres même aussi, en renonçant au péché, aux impiétés, aux convoitises. Le peuple qui avait abandonné l'Éternel et s'était tourné vers d'autres dieux, je suis convaincu que Éhud ne servait pas des idoles. Parce qu'il continuait de servir l'Éternel, il avait encore sa foi en l'Éternel. Et Dieu, ce qu'il s'attend de nous pour qu'on soit des lumières lumineuses et qu'on soit des leaders, bien évidemment, il veut qu'on soit distinct aussi du monde qui nous entoure, du péché, des convoitises. C'est ce que Dieu s'attend de nous pour être des leaders. De la même façon, si vous aussi, rapidement, je vous demande de citer des grands leaders des Écritures, qui vous donneriez? Jésus, Paul, Moïse, Joseph. Par exemple, Paul et Moïse, est-ce que c'était des hommes, des leaders, qu'ils étaient grands, forts, costauds, à la Saül un peu, là? Non. Paul était petit, on imagine qu'il n'était peut-être pas nécessairement intimidant quand il arrivait dans l'Église. Et Moïse qui avait de la difficulté à parler peut-être et qui a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon parce qu'il voulait maintenant, il regardait l'avantage qu'il y avait d'être attaché à Dieu. Et dans son humilité, dans son attachement sincère à Dieu, mais Dieu l'a utilisé avec sa faiblesse. Et quel homme que Moïse, quel leader que l'on connaît comme Moïse, mais qui dans le fond, quand on apprend, on regarde sa vie, c'était un homme qui était humble et était fort patient aussi. Et puis, Dieu veut qu'on soit des leaders en renonçant aux impiétés, aux convoitises, aux péchés, puis aussi en soit des leaders en choisissant le bien. L'un ne va pas sans l'autre. Le peuple, quand ils ont abandonné les idoles, ils ne devaient pas changer les idoles pour d'autres idoles. De la même façon que nous, on n'abandonne pas un péché en compensant par un autre péché, mais on abandonne les idoles pour revenir au Dieu vivant. De la même façon que nous, on abandonne les choses de ce monde pour revenir aux choses d'en haut. Attachez-vous, recherchez les choses d'en haut, Colossiens. C'est ce que Dieu désire de nos vies. Veux, veux pas, on vit dans un siècle, dans le siècle présent, puis avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que ce soit la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la rivalité, les querelles, la jalousie, les divisions, l'envie, les excès, on pourrait citer Galates 5. Mais Dieu veut qu'on soit distinct de ce qui nous entoure. Dieu veut nous utiliser comme lumière, veut nous utiliser comme leader, peut-être même au sein de notre assemblée, ou ce que dans notre service, dans notre humilité, dans notre engagement avec Dieu, Dieu veut nous utiliser pour édifier nos prochains, et puis pour être des lumières dans le monde aussi. Vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice, la piété. Paul y dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais quoi? Je l'ai entendu, je pense. Mais la piété est utile à tout. Un leader se doit d'être fort. On imagine les vaillants, là, les guerriers, ils devaient avoir des muscles. Mais l'homme de Dieu, l'homme ou la femme de Dieu, le leader de Dieu, ses muscles spirituels sont attachés justement à sa piété parce qu'il les exerce. Il exerce sa piété, il s'entraîne et il est un leader justement qui est fortement attaché à Dieu. Et on revenait dans Juges 3 juste pour conclure. Je ne pouvais pas préparer une prédication en entier sur le prochain juge. J'aurais sûrement tourné en rond un peu. Mais quand même, on peut voir l'œuvre de Dieu encore à travers Shamgar, ou on connaît le dernier des samouraïs. Lui, c'était peut-être le premier. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Comment? Un autre Samson, 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. On n'a pas beaucoup de détails. C'est tout ce que l'on a. Et son aiguillon, il devait être assez long. Il pouvait en 3-4 d'une shot. Mais Encore là, ce que l'on voit. Comment? Non. Ouais. Un petit pic, là. Pic. Pour l'acétate, ouais. Ouais, c'est ça, avec un objet pointu. Ben oui. Alors, 600 hommes. Encore là, on voit à travers ce libérateur-là une œuvre qui dépend de la main de Dieu. Comment est-ce qu'avec un aiguillon à bœuf, Dieu a permis que ce libérateur-là tue 600 Philistins? Avec une chose aussi banale qu'un aiguillon à bœuf, Dieu se glorifie dans les choses viles de ce monde aussi. Il veut nous utiliser et il n'y a rien qui est au-dessus de sa portée pour la libération. Oui. On va passer au travers des juges. Les prochains que l'on va voir, Déborah et Barak. Je pense que ça va être très intéressant. Oui. Verset 20 du... Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et comme tu dis, il y avait de l'élan comme il faut. Mais comme tu dis, la parole de Dieu dérange. Et ça, on est capable de plus que l'imaginer. On le sait que quand on parle de la parole de Dieu, c'est ça. Les gens sont dérangés souvent par ça. Mais la parole de Dieu, on pourrait citer Hébreux 4, Hébreux 4, 12. Tu connais-tu par cœur, Serge? Ouais. Oui. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant, justement, qui pénètre à séparer corps et esprit, âme et esprit, jointure et moelle. C'est la parole de Dieu qui vient porter ces coups-là dans nos vies aussi, qui nous font mal, mais qui nous font du bien aussi en même temps, parce qu'elles viennent séparer, à mon avis, je pense, les désirs de la chair, les désirs de l'esprit. Prions pour terminer. Seigneur, on vient devant toi encore pour t'adorer. Tu es un grand Dieu. On voit tes miracles. On voit comment est-ce que ta main est toute puissante. On voit comment est-ce que tu interviens dans nos vies. Et Seigneur, c'est pas parce que tu désires notre mal, mais tu désires, Seigneur, une pleine consécration de nos vies. Et quand on pêche, tu permets, Seigneur, de nous châtier. Tu veux nous châtier pour que justement qu'on revienne à toi parce que tu nous aimes. Tu veux une relation sincère avec nous. On veut te dire merci pour ça. Merci parce que tu nous donnes la liberté, tu nous donnes la victoire, tu nous donnes la paix. Tant et aussi longtemps, Seigneur, qu'on marche avec toi, on est vraiment reconnaissant. Bénis ta parole dans nos cœurs. C'est en nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.